Bonjour et bienvenue pour cette 12e émission Livre en lutte. Aujourd'hui, on va parler des tirailleurs sénégalais. Donc, on va aborder les tirailleurs. Actuellement, donc, sort sur les écrans le film Tirailleurs. J'ai bien aimé, mais il y a très peu d'éléments de contexte. Donc, on va pouvoir aller plus au fond. Puisque nous accueillons aujourd'hui Gilbert et Catherine Lahaye et Eric, qui sont tous trois donc les membres et les cofondateurs de l'association Solidarité Internationale de Vitry-sur-Seine, qui a présenté une grosse exposition sur les tirailleurs sénégalais et qui a aussi produit un livre, alors lui très complet, peut-être définitif, on dira. Écoutez, bonjour Catherine, Eric et Gilbert.
Bonjour.
Alors, on va peut-être d'abord parler un petit peu de la date de cette création de l'association Solidarité Internationale.
Oui, donc l'association Solidarité Internationale a été créée en 2003 et a évolué à partir de 2004 dans le domaine artistique au début, et pour évoluer après, au bout de vers les années 2009-2010, vers plutôt des activités socioculturelles réalisées de façon pérenne. Donc je passe la main à la directrice qui va dire deux mots sur les activités.
Donc je vais rajouter un petit peu sur la création de l'association. C'est une association artistique au départ, et parce que moi je suis artiste. Et au départ, on arrive en 2000 en France. Et je ne peux pas faire mon art parce que je ne sais pas où aller. On vit dans une cité qui s'appelle Cité Ampère à Vitry-sur-Seine. Et là, on rencontre des gens et on va faire des enquêtes, demander aux gens de quoi ils ont besoin pour pouvoir vivre ensemble et tout. Et c'est comme ça que Solidarité Internationale est partie. Sur des activités socio-culturelles qui, de 2003 à 2009, ça a été la période du bénévolat. Et à partir de 2010, les activités sont mises en place avec des partenaires qui financent les activités.
Et donc des activités qui ont lieu du lundi au vendredi, tout le long de l'année, et des activités socioculturelles et d'intégration, en particulier comme l'apprentissage du français. Aussi, il y avait des cours d'informatique, il y avait de la couture, et on s'est orienté rapidement vers de l'accompagnement pour l'accès aux droits des personnes, accompagnement qui s'est un peu spécialisé au niveau des réfugiés et ce qu'on appelle les primo-arrivants aussi. Et en fait, et après, bien sûr, comme nous sommes dans une cité, nous avons tout de suite eu comme premier partenaire la CAF, avec qui, en fait, nous avons une convention, en fait, d'espace de vie sociale, et avec laquelle nous réalisons des actions de proximité, de cohésion sociale.
Alors moi, je vais en profiter pour dire une petite chose. On est donc de Vitry-sur-Seine, et Vitry-sur-Seine, je pense qu'on peut employer l'expression c'est une ville du vivre ensemble. Il y a au moins 120 associations qui sont référencées au centre culturel de Vitry, qui soutient les associations. Donc c'est autant d'offres de solidarité, de culture pour, vous l'avez dit, émanciper, intégrer les populations. Et c'est vraiment, c'est ce qu'on voit un peu tous les jours. Il y a une grosse activité, une grosse offre. Après, il s'agit que les gens en profitent.
Tout à fait.
Ensuite, l'exposition, parce que vous avez produit une grosse exposition. Ça a commencé en quelle année?
Oui, disons que dans le cadre donc, du vivre ensemble et tout, les activités qu'on met en place partent de l'observation du quotidien. Et pour l'exposition, on est en 2014 et c'est la commémoration de la guerre 14-18. Et moi, je suis la directrice de l'association. Dans le cadre donc de ce vivre ensemble, et par rapport aussi au fait que mon grand-père, il a fait une guerre que je ne connais pas, parce que je cherche aussi mon histoire, donc j'ai proposé qu'on fasse une exposition sur la guerre 14-18. Donc disons que toutes les associations devaient proposer un projet, et là, Moi, j'ai proposé ce projet-là, qui a été pas très, très accepté parce que le temps était très court. Mais bon, on a quand même cherché des partenaires avec qui on a réalisé cette exposition.
Donc une exposition qui s'intitule en fait « Les tirailleurs sénégalais avant, pendant et après la Première Guerre mondiale ». Petite parenthèse tout de suite, on parle des tirailleurs sénégalais, mais il faut savoir qu'on devrait dire les tirailleurs dits sénégalais, car en fait ça regroupait, ça concernait en fait tous les Africains francophones subsahariens.
Alors francophones ou dit francophone, parce
alors, je dis francophone parce que, oui, on parle des tirailleurs, le mot tirailleur, bon, c'est un mot français, si je peux dire, tirailleurs au sens de l'Empire français, mais il est vrai que dans notre exposition, comme dans le livre, on fait aussi mention des autres tirailleurs, si je peux dire entre guillemets, des autres puissances de l'époque, parce qu'il faut savoir que ce soit les Allemands, les Italiens, les Belges, les Portugais certainement aussi, chacun employait dans ses armées en fait les populations africaines.
Alors c'est ce qu'on entrevoit dans le film Tirailleurs, donc au moins ça aurait été cité, c'est-à-dire qu'il y a une scène où il y a un monsieur qui cherche quelqu'un, un correspondant, il s'adresse à toutes les personnes qui l'entourent, mais lui-même est Paul, et les autres tirailleurs sénégalais ne parlent pas sa langue. Et ça c'est intéressant. Alors dans votre livre, on parle de la création d'un français tirailleur, qu'on va appeler plus dans le civil le petit nègre ou le français simplifié. Et il a fallu que les militaires travaillent sur une langue pour que les soldats puissent communiquer avec leurs sous-officiers ou leurs officiers, quoi.
Oui, tout à fait. En fait, on s'aperçoit que pour communiquer, comme il y avait beaucoup de... Les tirailleurs provenaient de différentes ethnies, de tous les pays qu'on connaît, et il fallait un langage qui permette de communiquer entre le haut commandement, c'est-à-dire le commandement tout simplement, et les soldats. Et puis aussi, c'est une ébauche de communication entre les soldats eux-mêmes, car eux-mêmes ne connaissaient pas les langues nécessairement des autres Africains. Et d'où est né entre ce qu'on appelle un peu souvent le français petit nègre, qui avait été élaboré en partie en s'appuyant sur, je crois, la langue, le bambara.
Exactement. Alors, parce que je vais citer une petite phrase, si vous voulez bien, parce que c'est assez important. Par exemple, pour dire « le bon tirailleur obéit toujours », ça se dira « tirailleur, il y en a bon, lui toujours obéir oui. ». Et apparemment, ça, c'est basé sur la structure du bambara, et nous, on a l'impression aujourd'hui, quand on entend du petit nègre, que c'est caricatural.
Exactement. Et alors que dans les langues africaines ou dans d'autres langues, il n'y a pas nécessairement des articles, et puis la grammaire est très différente, quoi.
Alors ça, c'est un truc que j'avais jamais vu. Donc l'exposition, je crois que elle a dû se développer petit à petit, parce que vous l'avez présentée dans beaucoup de communes en France, je pense. Je crois qu'il y en a 47.
Oui, au moins. Oh, oui. Donc si on ne te trompe pas, Eric, tu peux aussi dire à peu près dans combien de villes l'exposition a été...
En fait, je sais qu'il y a exactement, il y a eu 47 expositions.
D'accord.
Après, ça doit... concerné, puisqu'en fait on n'a pas été souvent, je dirais, plusieurs fois dans une même ville, si ce n'est bien sûr à Vitry, où elle a été représentée trois fois au moins, donc on est au moins dans une quarantaine de lieux différents en France, oui.
Et puis aussi un petit peu à l'étranger.
Oui, et à l'étranger, donc pendant l'année 2018, la caravane, donc on dit, c'est pour ça que c'est la caravane de la mémoire, hein, le fil conducteur aussi, est allée à Madagascar pendant 10 jours,
avec Joël Broquet.
Monsieur Broquet, ouais. Et au Sénégal, donc avec en fait Catherine et moi, nous sommes allés au Sénégal pendant une semaine, où là, l'exposition, nous avons laissé, alors en fait on s'est entendu avec l'Institut français de Dakar, il y a un jeu d'exposition qui se trouve depuis 1918 au musée des forces
2018.
Armées des accords.
2018.
Ah oui, 2018.
Donc c'était à l'invitation de l'ambassade de France au Sénégal qu'on a été là-bas avec l'exposition.
D'accord.
Pour la fin de la commémoration de la guerre 14-18.
Alors, maintenant, on va parler du livre. Parce que donc le livre qui s'appelle Les forces noires africaines avant, pendant et après la Grande Guerre, aux éditions SPM. Alors là, vraiment, on a du fond, comme je disais. Il y a une super iconographie. Moi, j'adore tout ce qu'il peut y avoir dedans comme reproduction. Et bah, écoutez, je ne sais pas par quel aspect vous voulez commencer. Moi, je voudrais, si vous voulez, moi, je veux bien. J'ai trouvé une petite phrase de Jules Ferry que je vais citer. Elle n'est pas dans le livre, mais bon, je suis allé la chercher. Donc, Jules Ferry qui avait dit « Il faut dire ouvertement, en effet, que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. » Dans le même texte, il dit un peu plus loin « Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Donc, il y avait quand même, dans tous les milieux politiques français à l'époque, il y avait quand même ce côté très pro-colonialiste et paternaliste, et tout ce qu'on veut. Et puis, dans ce cadre-là, donc, en fait, on a tout d'abord l'armée d'Afrique qui est créée en 1830. Et
on peut avoir le son là.
Oui, qui est créée en 1830 et ça s'appelle pas encore les tirailleurs sénégalais. Je crois que c'est apparu un petit peu plus tard.
Oui. Le régime, premier bataillon exactement de tirailleurs sénégalais a été créé en 1857 sous la demande en fait de Federbe qui était gouverneur du Sénégal à l'époque, à Dakar, et il avait fait cette demande donc à Napoléon III. C'est Napoléon III donc qui a signé un décret, si je ne me trompe pas, le 21 juillet mai 1857 à Plombières-les-Bains, où nous sommes allés aussi lors d'une reconstitution. Et donc avant ça, en effet, il y avait des formes de milices et d'autres formes qui existaient au niveau de, je dirais, d'un début d'armée coloniale. Quoi.
Et bon, cette création a été demandée, comme dit Gilbert, par Federbe. Pourquoi ? Parce que les Français qui allaient là-bas décédaient beaucoup par rapport au, je crois que c'était le palud et d'autres maladies. Mm-hmm. Et donc il fallait quand même des gens pour batailler. Donc c'est dans ce cadre-là que lui, il a demandé qu'on crée ce corps de tirailleurs sénégalais, qu'on a appelé tirailleurs sénégalais.
D'accord. Et après, je crois que ça s'accélère en fin de 19e, en 1884, 92. Alors, il y a des tirailleurs sénégalais et tirailleurs soudanais en 1892, des tirailleurs malgaches en 1895. On recrute partout où on peut recruter.
Voilà, on recrute dans les colonies, tout ce qui est colonies françaises, on recrute des gens pour venir à la guerre 14-18.
Oui, alors disons, déjà à l'époque, on recrutait aussi pour renforcer les unités en Afrique, pour poursuivre l'expansion ou maintenir, je dirais, faire un peu le gendarme dans les différents territoires.
Voilà, c'est l'époque des colonnes, on appelait ça des colonnes quand il y avait des expéditions. Alors, il faudrait parler en fait de la perception qu'avaient les Africains de la France, au moins parce qu'elle a pu un petit peu changer, et parce que ce recrutement s'est fait plus ou moins bien. Il y a un chapitre dans votre livre donc où on parle de la perception par les Africains des colons, et puis il y a leur façon de vivre aussi le code de l'indigénat. Il y a pas mal de choses, c'était peut-être pas facile d'accepter. Alors, il y avait des recrutements volontaires, et il y a eu des recrutements aussi forcés.
Oui. Alors, déjà au départ, alors que là, vous parlez du recrutement pour la guerre 14-18, c'est ça ?
Oui.
Tout à fait. Donc, comme on était déjà au niveau de la guerre 14-18, au niveau, donc, il y avait des bataillons de tirailleurs sénégalais qui existaient, et le commandement avait, au départ, envoyé des unités très aguerries, donc en France, pour combattre, Mais cette guerre était très dévastatrice à tous les sens du terme, et il a fallu après recruter d'autres, et des gens qui étaient très plutôt novices. Et là, en effet, le recrutement, au début, a été plutôt difficile. Il était difficile, et, car les gens, plutôt, avaient tendance à fuir. Alors là, on pourrait rentrer dans des détails qu'on ne va pas faire maintenant, mais il faut savoir qu'en particulier, au niveau des régions francophones, les gens, par exemple, s'ils pouvaient se réfugier dans les régions anglophones, etc., par exemple autour du Ghana, etc., ou du Nigeria. Donc les gens fuyaient dans les bois pour ne pas être recrutés, etc. Et en fait, ça a été plutôt très difficile et quelquefois très dur, puisque dans certains cas, si le chef à qui on avait demandé d'amener des hommes de son village pour le recrutement, il n'obtempérait pas, quelquefois, le village pouvait être brûlé, quoi.
D'accord, parce qu'il y a eu des chefs qui ont, ça s'est passé différemment, mais il y a des chefs qui ont, eux, joué à fond un peu la carte, qui ont voulu faire plaisir en fait aux colonisateurs, et d'autres un petit peu moins. Mais il y en a effectivement qui étaient tout à fait pour, quoi.
Oui.
Alors effectivement, on parlait de troupes aguerries parce qu'effectivement, il y avait les premiers tirailleurs sénégalais avaient fait la guerre en Algérie ou ailleurs. Donc c'était des troupes, je pense,
d'élite un peu.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, des troupes d'élite ou des troupes de choc. Donc pour moi, c'est important de. On va parler un peu des massacres après avec Mangin, enfin des choses qui se sont passées qui n'étaient pas très très jolies. Mais c'est pas forcément au départ de la chair à canon qu'on met en première ligne. Ce sont des troupes qui sont considérées pour leur valeur au départ, avant qu'on ait besoin de rencontrer d'autres personnes. Et puis parce qu'il y avait ce problème démographique de la France face à l'Allemagne. C'est aussi pour ça, je crois.
Oui, il faut dire que. Donc, par rapport à cette époque-là, la guerre intervient pendant la colonisation. Et il faut se dire aussi que les troupes aguerries, c'était des troupes qui participaient à la colonisation. Donc, elles ont déjà travaillé avant. Donc elles savent comment s'y prendre. Et puis lors de la guerre 14-18, on va donc recruter des jeunes dans des villages et tout. Et bon, c'était un peu aussi, comment je veux dire, l'apprentissage du maniement de l'armement, c'était vraiment assez sommaire. Donc c'est pour ça que ces jeunes-là n'étaient pas aptes à faire front face aux autres.
Et puis c'est pas la même guerre en Afrique, qui en 14-18 c'est beaucoup plus industriel, c'est assez affolant, donc il y a un choc même pour les troupes aguerries de se retrouver dans un milieu aussi.
Je pense que Eric il peut en parler par rapport à l'armement pendant la Première Guerre mondiale.
Dans le contexte de ces guerres coloniales et après la Première Guerre mondiale, de façon simple, c'est la première fois qu'on voit apparaître des engins nouveaux, tels que des chars d'assaut, tels que des avions, tels que de nouvelles armes. Et c'est sûr que les tirailleurs sénégalais qui viennent de leur village ne sont pas habitués à manipuler ce genre d'armes ou ne sont pas destinés dans un premier temps à conduire des engins blindés tels que les chars qui apparaissent ou à piloter des avions. Donc le contexte dans lequel ils interviennent, c'est plutôt un contexte que l'on revoit aujourd'hui qui s'appelle des guerres de tranchées. Dans laquelle guerre, il faut effectivement que les militaires d'un côté ou de l'autre puissent effectivement aller combattre l'ennemi et gagner du terrain. Donc dans ce contexte-là, les forces disponibles souvent étaient constituées, disons, des forces qu'on appelle de première ligne, qui étaient des contingents de soldats, disons, africains. Mais je rajoute tout de suite que dans ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, on a dit qu'il y avait d'autres peuples, d'autres origines, et je précise que notamment, parmi ces tirailleurs sénégalais, on va retrouver et des Chinois, et des Thaïlandais, et des Japonais. Et parmi ces personnes plutôt de petite taille, ce sont des militaires thaïlandais qui ont été enrôlés dans la première ou les premiers avions que l'on a vus sur le front.
D'accord. Parce que ce qui est assez drôle, c'est que les colonisateurs, en fait, avaient attribué une valeur guerrière différente à chaque peuple, à chaque tribu, parce qu'ils avaient des a priori, donc tel peuple pouvait être des combattants, tel autre serait plutôt à l'arrière. En fait, selon chaque ethnie ou peuple, ils avaient décidé qu'ils n'avaient pas tous la même valeur au combat et qu'on n'en ferait pas tout à fait la même chose, quoi.
Oui, c'était par rapport à chaque, voilà, chaque peuple aussi. Hein.
Et notamment, tous les engagés chinois, on les retrouvait plutôt dans les usines d'armement pour les munitions. On ne les trouvait pas sur le front.
Oui, c'est vrai que toutes les personnes qui venaient des colonies d'Asie, que ce soit l'Indochine, l'Inde en particulier et autres, soit c'était dans l'armement, dans la logistique, où ils travaillaient au niveau du génie, on va dire, en arrière, et puis aussi au niveau de l'agriculture, essentiellement. Parce que, en fait, ça, je crois que c'est un peu un phénomène. Alors, il y a plusieurs aspects. C'est en fonction de ce que les généraux ont vécu eux-mêmes pendant la colonisation sur le terrain. Ils connaissaient quelles étaient, en fait, les ethnies qui étaient plutôt guerrières et les autres qui avaient un tempérament plutôt différent. Et c'est en fonction de leur expérience qu'ils recrutaient et qu'ils affectaient les gens dans tel ou tel domaine. Et c'est vrai que donc les tirailleurs sénégalais, donc africains, eux se retrouvaient plutôt sur le front et souvent en première ligne.
Parce qu'il faut dire aussi qu'effectivement, on n'a pas utilisé simplement les gens qu'on a colonisés pour l'armée, mais aussi beaucoup dans les usines, dans les champs, et en France, et en Afrique, en fait. Ça, c'est un aspect dont on parle moins souvent aussi.
Oui.
Et puis aussi le côté impôt, parce que il y a eu aussi le côté impôt, taxes, des souscriptions qui ont été levées aussi en Afrique et qui ont pu qui représentent des sommes très importantes. Oui. Donc il y a vraiment un énorme effort fourni par l'Afrique, par les Africains, mais à tout point de vue, pour soutenir cette économie de guerre, en fait.
Tout à fait. On va trouver des produits tels que l'arachide et tout ça, parce que bon, les tirailleurs, le caoutchouc et tout, et les tirailleurs, comme ils raffolaient, il y a, comment on appelle, de la cola, des choses comme ça, ces produits venaient d'Afrique. Voilà, donc on essayait de leur donner ce qu'ils connaissaient aussi, pour ne pas rompre
avec les habitudes,
du pays, quoi.
Oui, parce que, alors il faudrait qu'on parle du problème du climat et du phénomène de l'hivernage, parce que au départ on a un camp à Fréjus pour accueillir ces tirailleurs, et je crois qu'après on va pendant les périodes d'hiver les sortir du front pour les amener quand le front est bloqué, pour les faire redescendre dans des camps qu'on va agrandir ou qu'on va multiplier.
Oui, tout à fait, oui.
Donc Fréjus était un lieu où il faisait une première période, notamment pour apprendre le minimum de français, pour pouvoir être un soldat parmi les autres. C'était un lieu également où tous ceux qui étaient blessés sur le front étaient rapatriés pour être soignés. Et c'était un lieu aussi où on rapatriait pour les périodes d'hivernage les soldats, pour les faire un peu récupérer et éviter effectivement les températures, disons, de la France. Il y avait un autre camp qui avait été ouvert précédemment, c'était près de Bordeaux, mais ce camp était le Courneau, et ce camp était très rapidement fermé en raison des maladies tropicales, des maladies effectivement auxquelles les soldats africains étaient sensibles.
Ouais, pas que, d'autres soldats aussi. C'est une région très humide qui occasionnait beaucoup de maux. Les gens mouraient beaucoup de pneumonie, et c'est pour ça que ce camp a été abandonné, quoi.
Enfermé. Non, il n'a pas été fermé, puisqu'après il y a les Russes qui ont occupé ce camp, puis après les Américains à la fin de la guerre, etc., quoi. Mais c'est vrai que c'est un camp qui était très problématique. Et d'ailleurs, il devait être fermé plus tôt. Mais certains ont voulu à tout prix maintenir parce que... Alors, on parle d'expérimentation à ce niveau-là. Le Pasteur aurait créé un vaccin de type pneumocoque pour justement protéger les gens. Mais c'était plutôt pas une réussite, on va dire.
D'accord. Donc, oui, il y a eu des petits soucis, peut-être.
Comment ?
Il y a eu des soucis, des personnes...
Ben, beaucoup sont mortes. Il y a...
Ah oui, d'accord.
Oui. Et il faut savoir que même, bien que les gens... fussent à Saint-Raphaël et Fréjus dans les camps dans un climat qui est plus doux, il y avait quand même beaucoup sur les 4 années, je crois il y a plus de 4000 personnes quand même qui sont décédées de maladie.
Oui, il y a des chiffres comme ça dans le livre qui sont assez impressionnants. Alors il y a une chose, donc une petite différence entre les camps en France et les camps en Afrique, c'est la présence des femmes. Parce qu'apparemment en Afrique, on permettait aussi aux femmes d'accompagner les tirailleurs, aussi pour faire des économies sur les auxiliaires, et donc, mais qui étaient considérés, à qui on donnait un équipement, couverture, couchage, etc. Et qui étaient dans ces camps même. Et je crois que c'était un phénomène assez important, quoi.
Oui, en Afrique, donc pendant la colonisation, les femmes pouvaient suivre leur mari, et même sur le terrain, il y avait des femmes qui, parfois, voilà, c'est elles qui mettaient la poudre dans le canon et passaient à leur mari sur le terrain. Ben, il y en a qui sont décédées aussi sur le terrain, des femmes. Donc au Maroc, un peu partout, il y a eu ce qu'on appelle la pacification. Les femmes suivaient leur mari un peu partout. Bon, ça a été compliqué de le faire ici parce que c'était pas la même configuration. C'est une guerre et c'est une vraie guerre. Donc les femmes ne pouvaient pas suivre leur mari en France.
Et puis c'est vrai que aussi les femmes assuraient donc toute la partie, une grande partie finalement de la logistique, parce qu'au niveau nourriture, c'est elles qui préparaient, c'est elles qui gardaient, et c'est elles aussi, alors bien sûr au niveau comme des colonnes dont vous parliez, pour étendre l'empire, il y avait des porteurs, alors on reviendra sur aussi les porteurs, c'est important, il y avait les porteurs, mais après les femmes, c'est elles qui organisaient le camp, qui participaient énormément. Bien sûr, c'est une organisation qui était propre à l'Afrique, je dirais. Après, en Europe, en France, il y a toute une autre organisation qui est prise en main par les militaires, et que ce soit pour leur ravitaillement, dont on parle aussi dans le livre, pour les réalisations de la cuisine et autres, quoi.
Parce que c'est vrai, je reviens sur les histoires de colonnes en Afrique, mais quand il y a des terriens sénégalais qui traversent un pays, il y a beaucoup, beaucoup de porteurs, et il y aura beaucoup de morts aussi parmi ces porteurs. Oh. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément à l'esprit, en fait.
Oui, et c'est vrai que dans les différentes guerres, on ne sait pas très bien... Il y a peut-être une idée, je crois, pour le Cameroun, il y a différents chiffres qui ont été annoncés, mais je ne l'ai pas en tête là actuellement. Mais il faut savoir que s'il y avait une colonne, d'ailleurs je me rappelle, la colonne vers la Centrafrique, le lac Tchad, il y avait à peu près, je crois, 700 porteurs. 700 porteurs, alors qu'au départ, je crois, il n'y avait que 300 soldats à peu près.
D'accord. Alors, je veux bien faire une petite digression sur l'histoire d'une colonne. C'est l'histoire de Voulet et Chanoine. Parce que, au 19e, les officiers qui menaient des colonnes pouvaient faire, si ça marchait bien, en fait, ils pouvaient faire des jolies carrières. Et puis, on a deux officiers qui se distinguent par leur cruauté, qui détruisent les villages partout où ils passent, etc. Et alors il y a une chose un peu impressionnante, enfin moi ça m'étonne un petit peu, c'est qu'il y a un moment Paris décide qu'ils sont allés trop loin. Ils envoient donc une autre troupe contre eux et on a une colonne dirigée par deux officiers français qui va se battre avec une colonne qui est dépêchée contre eux. Et les deux, Voulet et Chanoine, il y en a un qui meurt pendant le combat et l'autre un petit peu après par une sentinelle parce qu'il s'est échappé. Et ça, je trouve ça assez inimaginable qu'une armée et désavouer en fait des officiers et envoyer un autre contingent parce qu'ils avaient été trop cruels. Ça, c'est assez étonnant comme histoire.
Oui, mais ça prouve qu'il y avait, entre guillemets, si je peux dire, quand même un minimum de conduite et de valeur aussi dans les combats, je dirais. L'objet, en fait, c'était d'occuper le terrain, d'organiser l'administration des territoires occupés, de se battre contre des assaillants qui s'opposaient à l'avancée, je dirais, des troupes, dans une guerre franche, si je peux dire, mais il n'a jamais été dit qu'il fallait tuer des civils, des enfants, des femmes, etc., et brûler des villages. Oui. Ce n'était pas du tout l'objet.
Je crois que c'est pendant la colonisation.
C'est la colonne.
C'est la colonne, voilà, tout à fait.
Alors, est-ce qu'on enchaîne sur les marraines de guerre, puisqu'on en était aux femmes? On a en 14, donc un gouvernement qui... Alors, comment ça se crée? Il y a des associations qui se créent pour qu'apparaissent des marraines de guerre à partir assez tôt, en janvier 2015, et qui vont marrainer, je ne sais pas si on dit ça, mais qui vont aller vers les soldats pour un peu s'occuper d'eux.
Oui, souvent, quand les soldats étaient blessés, étaient soignés, étaient dans les hôpitaux, ce sont souvent des infirmières qui s'occupaient d'eux. Et souvent, ces infirmières, après, sont devenues également des marraines de guerre. Donc, le soldat guéri repartait au front. Et ces marraines de guerre s'occupaient de lui en lui envoyant des courriers, en lui envoyant différents objets, même des vivres. Et un certain nombre de ces marraines de guerre se sont retrouvées à la fin de la guerre mariées avec le soldat dont elles étaient la marraine pendant la guerre. Et donc il y a eu également beaucoup d'enfants qui sont nés de ces unions. Mais ce phénomène n'était pas spécifique à l'armée française, et d'autres armées également pratiquaient et avaient des marraines de guerre de leurs soldats. Et c'était notamment le cas de soldats noirs africains qui combattaient pour le compte de l'Allemagne. Et donc, ces soldats aussi se retrouvaient avec des marraines, mais cette fois-ci, soldats africains, marraines allemandes.
Voilà, donc le phénomène des marraines de guerre intervient. Pourquoi ? Parce que ils sont loin de chez eux. Et il faut continuer quand même de maintenir le moral de ces gens-là. Donc les marraines de guerre vont être mises en place pour donc leur permettre de garder le moral pendant la guerre. Les femmes étant loin, les familles étant loin. Donc, comme Eric dit, c'est elles, quand ils sont au front, ou bien quand ils reviennent, elles leur envoient des colis, des petites lettres, des choses comme ça pour vraiment entretenir le moral des troupes, quoi.
Alors, j'ai lu dans le livre que, bon, évidemment, dans l'opinion publique, il y a un moment où il y a une partie qui voit un exemple de la dissolution des mœurs, et donc ces marraines font l'objet de moqueries, et on prétend que ce serait un expédient pour les femmes légères et une planche de salut pour les vieilles filles. Donc c'est plus ou moins bien, évidemment, il y a toujours des gens pour critiquer, et ça sera plus ou moins bien perçu.
Oui, pendant la guerre, donc à Fréjus, il y avait ces fameuses, on va dire, des filles.
Oui, mais ça, c'est autre chose.
Non, c'était organisé.
Oui, c'était organisé. Ouais.
Non, donc, c'était la règle dans toutes les armées
d'organiser.
D'avoir, effectivement, personnel, je dirais, spécifique pour le repos du guerrier, quoi. Voilà. Mais c'était pas qu'à Fréjus, hein.
Oui.
Et c'est vrai que donc il y avait une autre problématique qui s'est posée. Alors il y a des problèmes peut-être sociaux, des dérives un petit peu entre guillemets sociales, mais il y a aussi un autre facteur qui a amené l'armée à mettre fin en fait au marrainage, on va dire, c'est l'espionnage. Parce que les femmes qui allaient avec les tirailleurs, parce que bon, c'était... elles envoyaient des courriers, c'était une relation, je dirais, à distance, mais après les marraines venaient sur place aussi, et entretenait des fois des relations très, très fortes avec les tirailleurs. Et là, elle pouvait soutirer des informations aux soldats et transmettre ces informations à l'ennemi. Et on ne sait pas dans quelle mesure c'est arrivé, mais certainement, ça a été le cas. Et suite à cela, l'armée a dit que il fallait mettre fin à ce marinage qui pouvait compromettre justement l'avancée de la guerre et d'autres dispositifs.
D'accord, même si ça n'est pas arrivé peut-être très souvent, c'était un risque ou un fantasme, on n'a pas voulu que... Voilà, on a voulu faire attention. Est-ce qu'on aborde un peu l'importance des tirailleurs sénégalais pendant la guerre avec Mangin, avec Douaumont, parce qu'il y a des figures qui ont peut-être parlé de Mangin, puisque c'est une des figures les plus célèbres, qui commandait donc des tirailleurs en général, des tirailleurs sénégalais en 14, et qui a popularisé cette idée d'une force noire en fait.
Oui, alors Mangin. Donc Mangin qui a commencé sa carrière donc en Afrique, il était à l'école Saint-Cyr, après il a été en Afrique et là il a fait ses armes sous différents hauts commandants ou généraux, comme il y avait Gallieni, il y avait Archinard, et puis après il est allé au Maroc avec Lyautey, et c'est, je crois que donc, c'est au Maroc il est devenu un juste avant la guerre, et il y a eu le grade de colonel. Donc, il a, en particulier avec Archinard, c'est là qu'il a beaucoup évolué et qu'il a connu les Africains, leurs capacités, leurs qualités, qualité de soldat, mais aussi qualité dans le sens de, c'est des gens qui sont, quand ils s'engagent, ils sont loyaux, ils vont jusqu'au bout. Et c'est ça qui a fait que Mangin a dit qu'il serait intéressant, en raison de la différence démographique entre l'Allemagne et la France, pour combler ce déficit, d'engager des troupes coloniales, africaines et africains noirs en particulier, dans les troupes métropolitaines. Et donc en 1905, il a écrit un livre sur la force noire.
Voilà, c'est le titre, c'est le titre du livre.
Pour mettre en exergue cette thèse, qui a été soutenue par, justement, même par les généraux, comme toujours Archinard, Gallieni et d'autres, qui vraiment ils trouvaient que c'était une bonne solution. Alors bien sûr, au niveau de l'État français, c'était toute une autre histoire d'incorporer des soldats qui proviennent de la colonisation, en fait, dans l'armée métropolitaine. Je dirais, c'est un peu...
C'est quand même osé.
C'est un double tranchant, entre guillemets. Parce que les armes et toutes les formations qu'on peut après inculquer aux gens, ça peut se retourner, évidemment, contre la France à un moment donné. Et donc, c'est pour ça qu'au départ, l'État français était plutôt très réticent. Mais l'État français n'a pas eu trop le choix. Et je dirais que, même si les thèses de Mangin n'étaient pas approuvées, il a fallu être réaliste, et le réalisme a fait que, eh bien, il a été décidé de recruter des tirailleurs pour les Kéguérois en Europe. Ce qui n'a pas été du tout le cas des autres nations, qui, eux, trouvaient ça même, comment on pourrait dire, indigne que des soldats colonisés viennent se rebattre sur le front européen, tels que l'Allemagne, l'Italie, entre autres. Mais les Belges n'ont pas fait non plus. Il y a seulement l'Angleterre qui, elle, avait des bataillons de l'Inde.
Oui, parce que tu as un immense empire avec énormément de régiments petit peu partout. Pour la loyauté, c'est vrai qu'il n'y a aucun tirailleur sénégalais dans les mutineries de 1917, par exemple. Je crois qu'il n'y en a pas.
Alors, je ne pourrais pas le dire à 100%,
ouais.
Mais...
ça n'apparaît pas.
Les mutineries provenaient essentiellement des troupes françaises.
Je crois que c'est la bataille de 1916.
Au chemin des dames.
Cette bataille, c'est ça qui a été à l'origine des mutineries. Parce que en quelques jours, il y a eu une hécatombe et les gens ne voulaient plus continuer
de se battre.
Que ce soit les Français, que ce soit les autres, ils ont vu cette hécatombe et puis ils ont dit non, on ne peut pas continuer. Et c'est là où on trouve aussi le chant de, comment on appelle ça,
Crown.
La chanson de Crown. C'est le début de la chanson de Crohn.
Alors, moi, je voulais parler de d'Ouaumont, parce qu'on parle des soldats, des tirailleurs sénégalais, qui vont acquérir quand même une certaine réputation. Et alors, il y a un fait d'armes, bon, c'est pendant la, ben, pendant la bataille de Verdun, c'est la reprise du fort de d'Ouaumont en 1916, et là, on a un bataillon de tirailleurs sénégalais, un régiment d'infanterie coloniale du Maroc, un régiment mixte de zouaves et de tirailleurs sénégalais, une compagnie somalie. Alors là, on avait vraiment utilisé énormément de troupes coloniales, quoi. Oui. Et donc, ils vont effectivement reprendre le fort. Et je pense que ça va être aussi assez emblématique de leur qualité au combat et de l'utilité de ces tirailleurs sénégalais.
C'est vrai que... Donc ça, c'est une... C'est pas une anecdote. On a dans l'exposition, comment on appelle ça, un témoignage de quelqu'un dont les deux oncles ont fait Verdun. Et il y a un qui est resté, donc qui a été tué, et un qui est revenu. Et lui, il racontait que vraiment la bataille de Verdun, c'était quelque chose d'assez unique. Et bon, il a raconté ça, et puis donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées à Verdun, mais c'était une victoire pour Mangin et sa troupe, quoi.
Un Mangin qu'on va un peu qualifier de boucher quand même malgré tout, parce qu'il y a des attaques.
Oui, c'est à comment on appelle au chemin des Dames, hein, où il a été qualifié de boucher des Noirs. Parce que c'est vrai que pendant trois jours, je pense, hein, ils sont restés dans la boue, ils avaient des engelures et tout et tout, et c'est, comment on l'appelle notre cher ami qui a quand même tenu à combattre, c'est Nivelle. Nivelle a quand même tenu à engager les combats dans cette situation-là. Et ça a donné, c'était une catastrophe, parce que beaucoup de tirailleurs sont restés sur le...
Oui, en fait, il y a eu, je crois, à peu près, juste avant la bataille, quand c'était le 16 avril, le début de la bataille, il faisait froid, il neigeait même. Et je crois qu'il y a à peu près 1000 tirailleurs qui, avant la bataille, ont été, si je peux dire, mis à l'écart, à cause des engelures, etc. Et Mangin... pour montrer, parce qu'il tenait toujours à sa théorie, qu'il comptait sur la bravoure des tirailleurs, avait placé donc une partie des tirailleurs sur le flanc droit et l'autre sur le flanc gauche, bien sûr avec bien sûr, les autres combattants français, canadiens, etc. Et lorsqu'ils se sont tous lancés le 16 avril dans, je dirais, la bataille pour reconquérir le plateau, je mange le nom, du chemin des Dames, voilà, le plateau du chemin des Dames, c'était l'hécatombe. Et en particulier pour les tirailleurs sénégalais, au niveau de ce qu'on appelle la caverne du dragon. Alors rapidement, la caverne du dragon, qu'est-ce qui s'est passé? Les tirailleurs ont réussi, tant bien que mal, à arriver sur le plateau. Et tout d'un coup, ils n'ont pas compris.
On leur tirait sur le dos.
C'est ça, on leur tirait dans le dos. Au début, ils se sont dit, c'est pas peut-être les nôtres quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ces cavernes, ce plateau plutôt, contenait des cavernes où les Allemands se réfugiaient. Ils étaient tous en dessous. Ils ont attendu que les soldats français et les tirailleurs montent sur le plateau. Et après, ils ont sorti les mitrailleuses. Et ils ont tué, en grande partie, les soldats. Il faut savoir qu'en quelques jours, sur les 15 000 tirailleurs qui étaient engagés, 6 000 sont décédés.
Voilà, c'est le chiffre que j'avais vu qui est assez impressionnant. Oui.
Et donc c'est suite à ça que dans la presse française, Mangin avait été qualifié de boucher.
Boucher des Noirs.
Et qu'il avait été limogé en même temps que Nivelle d'ailleurs aussi par le haut commandement. Et c'est là que Pétain a repris le commandement du front, quoi.
D'accord. Mais Mangin, je crois, il ne revient pas à la fin de la guerre
Si, il revient en 1918.
Il a été réhabilité.
C'est Clémenceau qui l'a appelé à la tête de la 10e armée, je crois, sous le commandement de Foch. Ouais.
Et là, en fait, il a participé et il a, en fait, a percé le front et le mur allemand. grâce, en fait, avec une technique de feu roulant. Et alors, faut savoir que Mangin, qui était général à cette époque, alors faudrait suivre un peu sa carrière, etc. Il avait été, à titre, il est décédé en 1924 ou 25, je crois. On ne sait pas de quoi exactement. Il sait peu de, certains disent d'empoisonnement, puisqu'il avait commencé à s'engager aussi dans la politique. Mais on ne le saura jamais parce que sa femme avait refusé qu'on fasse une autopsie pour éviter d'alimenter en fait des dissensions qui pouvaient exister entre certains militaires et lui et sa famille, quoi.
D'accord. Donc je ne sais pas si vous voulez aborder un point particulier. Moi j'ai découvert dans le livre que l'histoire des quatre vieilles, ces quatre communes. Au Sénégal, Dakar, Douala, Saint-Louis et Rufisque.
Rufisque et Gorée.
Gorée. Et donc, qui sont des communes régies par des lois françaises, en fait. C'est des communes françaises, quasiment.
Elles étaient françaises.
Oui.
Et d'où va sortir Blaise Diagne. Est-ce qu'on parle de Blaise Diagne, donc, est élu député. Il n'est pas élu maire. Maire, d'abord, et après, qui enchaîne les mandats de député.
Oui, tout à fait. Alors, ces quatre communes avaient un statut particulier, un statut, en fait, de communes françaises, c'est-à-dire les gens, mais pas à 100%, on va dire. C'est-à-dire, certainement, ils n'étaient plus soumis à l'indigénat comme les autres Africains, mais par contre, ils n'avaient pas tout à fait le droit de vote ou des choses de ce genre. Il a fallu attendre l'arrivée de Blaise Diagne à l'Assemblée nationale pour que les habitants de ces quatre villes aient vraiment les droits à l'identique de ceux des Français. Et donc, alors, puisque ces Africains, tous les Africains qui ont participé à la guerre provenant de ces villes, ne font pas partie du contingent des tirailleurs dits sénégalais, puisqu'ils sont français.
D'accord.
En fait. Donc, ils ont été intégrés, eux, ils faisaient partie des troupes métropolitaines. Et au début de la guerre, je crois, ils étaient autour de 7000 à s'être engagés, quoi. Et au niveau de Blaise Diagne, une figure un petit peu controversée, lui, en fait, il était pour l'assimilation à travers la situation actuelle qui était celle de la colonie. C'est-à-dire, plutôt que de lutter contre la colonie à 100%, c'est de se dire, non, utilisons le système colonial pour que les Africains aient les mêmes droits que les Français. C'était plutôt ça son pari, en quelque sorte, quoi. Donc il était très critiqué par tous les autres Africains.
Par Senghor, par... On a dit qu'il était trop assimilationniste.
Alors oui, c'est ça. Oui. Mais ça n'empêche que malgré tout ça... alors déjà, il est la première fois qu'il a été élu maire, je crois... Il avait rallié quand même l'opposition, c'est-à-dire de tous les opposants au régime colonial. C'est comme ça qu'il a été la première fois élu maire. Et il a quand même succédé, je crois, il a dû faire au moins 3 ou 4 mandats de maire.
Et 5 mandats de député. Donc, oui. Parce que c'est le premier, en dehors des Antillais, et au moment où il arrive, c'est le premier député noir à l'Assemblée, en fait.
Oui.
Donc en 1891 ou 94, je ne sais plus. Ouais. Enfin, une grande figure. Je pense que là-bas encore, il y a des écoles Blaise Diagne, il y a des choses comme ça. On se souvient de ce personnage.
Oui, oui.
Il y a un lycée qui porte son nom, actuellement.
Alors après, c'est vrai qu'il y a deux façons d'envisager les choses. Alors je reviens sur le film Tirailleurs. Il y a une chose qui m'a plu, c'est qu'on voit le père et le fils. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a une personne qui est enrôlée, qui est recrutée, qui est enrôlée de force, et le père qui s'enrôle volontairement pour aller le protéger, donc on a deux réalités. Et puis, ces deux-là, en fait, ne voient pas les choses de la même façon. On a le fils qui rêve de monter en grade, etc. Et le père, il veut juste sauver sa vie. Et j'aime bien ce côté, une situation, on a deux personnes différentes, qui vivent différemment la même situation. J'aime bien ce côté, ce sera pas, voilà, c'est pas démonstratif, c'est pas moralisateur. J'ai bien aimé cet aspect-là dans le film.
D'accord.
Ça nous fait penser au film indigène. C'est pareil, on avait 5 ou 6 personnes différentes qui vivaient différemment, chacun, la même situation. Moi, c'est ce que j'avais apprécié à l'époque aussi, beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aborde ?
Alors, il y a peut-être une chose que, là, on n'a pas abordée, qui est dans le livre. C'est ce qui est important, qu'est-ce que la guerre 14-18, a provoqué au sein du système colonial et, on va dire, au sein, dans les mentalités d'aussi bien des Européens que des Africains, la vision des uns par rapport aux autres. Qu'est-ce que ça a changé pour ces gens qui sont retournés en Afrique ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et aussi, il faut, donc c'est tout ça qui est important, donc qu'on traite dans le livre. C'est un petit peu long à en parler, mais il faut savoir quand même le 19e siècle, c'est le siècle comme du racialisme, où vraiment, en Europe, il y a même des chercheurs, entre guillemets, qui passent leur temps à montrer les différences, à partir de différences physiologiques et physiques, mettent impact des différences morales et autres, et même intellectuelles, aux différents peuples qu'ils rencontrent, que ce soit en Asie, en Afrique ou un peu partout ailleurs. Et ça, justement, c'est cette thèse du racialisme était très très forte. Et la guerre, entre autres, a été un moyen, quelque part, de contrebalancer ces idées. Parce que, déjà, les colonies, la guerre a fait évoluer dans le système européen des Africains, qui ont compris comment fonctionnaient les Blancs ou les Européens, qui ont appris leur technologie, et qui se sont sentis des égaux. Et même ceux qui combattaient dans les tranchées, les Français, se sentaient pas plus supérieurs à ces Africains qui venaient combattre à leur côté. Et tout cela a changé les mentalités, ou a créé des nouvelles visions des uns par rapport aux autres, et le premier mouvement, on va dire, d'émancipation des Noirs dans ce système colonial, quoi. C'est ça qui est important, quoi.
Et même peut-être... les Africains ont pu voir que les pays colonisateurs pouvaient perdre une guerre, voilà, qu'ils étaient faillibles. Et là, ça introduit l'idée qu'on peut faire, on peut peut-être se rebeller, on peut peut-être devenir indépendant. Je pense que c'est un petit peu ça aussi l'histoire de la guerre de 14.
Ils ont compris que les Blancs pouvaient faire la guerre contre d'autres Blancs et pas hésiter à les tuer, et que ces mêmes Blancs européens aussi avaient peur. Alors ça, on avait vu, nous, on avait pas mal étudié au niveau du Togo, ce qui s'était passé, la guerre, parce que, bon, là, on n'a pas parlé aussi de cet aspect, c'est la guerre en Afrique. La guerre en Afrique, une fois que la guerre a été déclarée, au moins en août, début août 14, la guerre, c'était aussi les Anglais avec les Belges, les Français, ont attaqué les colonies allemandes.
Donc il y avait la guerre en France et la guerre en Afrique en même temps. Donc, ils sont allés au Cameroun et puis au Togo pour chasser les Allemands.
Les Allemands, oui, donc, qui apparemment...
Il y avait, donc, voilà, il y avait donc cette colonne, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui partait de la Centrafrique, parce que de ce côté-là, il y avait aussi l'Allemagne qui réclamait du terrain. D'autres colonisateurs avaient du terrain. Et l'Allemagne s'est rendue compte qu'elle n'a pas aussi autant de territoire que les autres. Et donc, ils réclamaient aussi des territoires. Et c'est à ce moment-là que, la guerre a commencé ici, donc les autres se sont dit « Ah, il y a danger là-bas, il faut aller les chasser. » Donc, ils sont descendus et ils sont allés au Cameroun. Au Cameroun, ça a dû durer, je crois, un an.
Un an et demi.
Et au Togo,
trois semaines
pour chasser les Allemands.
Alors, moi,
les Allemands avaient incorporé dans leurs troupes des forces noires
qu'on appelle
les Askaris.
Les Askaris, voilà.
Donc, ils ont combattu pour le compte des Allemands contre d'autres Noirs qui se trouvaient, les tirailleurs sénégalais, dans l'armée française.
Et je soupçonne que mon grand-père a été dans les Askaris.
Voilà. Ah bon?
Ouais.
Très bien. Bon, écoutez, si vous avez une petite conclusion, moi, je vois une conférence de Berlin en 1885 où l'Europe se partage un peu l'Afrique. Bon, il n'y a pas d'Africains. Et après, il y a à la fin de... Il y a le traité de Versailles, 1918 ou je ne sais plus, où il n'y a toujours pas d'Africains qui sont là pour être à la table des négociations. Et voilà, et les choses recommencent, continuent comme on les a trouvées avant la guerre de 14, quoi.
Oui, donc ils n'étaient pas conviés ni à la conférence de Berlin, ni à d'autres conférences, parce que pour l'instant, c'était des, voilà, je pense, des sous-hommes. Hein. Voilà.
Alors, je rappelle que vous allez animer une ciné-rencontre à Vitry-sur-Seine ce mardi 7 février 2023 autour du film Tirailleurs. Donc voilà, donc si les gens veulent se retrouver au cinéma. Et puis voilà, je vous laisse faire une petite conclusion avant que l'on rentre de l'antenne. On n'a pas eu le temps de parler de tout, évidemment.
Alors moi, je vais dire une phrase, puis chacun dira assez son mot. Alors l'un des objets de l'exposition et du livre, c'est de l'importance de connaître son histoire. C'est pour ça qu'on dit que pour savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. Déjà, pour comprendre la situation dans laquelle nous vivons actuellement, eh bien, pour la comprendre, il faut nécessairement regarder son histoire, cette histoire commune que nous avons eue avec les Africains, avec les Indochinois, avec les Philippins, avec les Tahitiens, etc., à travers la colonie, dire malheureusement, à travers les guerres, mais maintenant, à travers tout ce que nous chacun a vécu, qu'est-ce que nous décidons tous en commun de faire pour le futur ? Voilà.
Donc, je rejoins Gilbert parce que l'objectif de l'exposition, c'est vraiment de pousser les gens à chercher leur histoire et à comprendre qui ils sont et pourquoi on se retrouve aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Et donc, connaître son histoire, c'est primordial dans la vie. Parce que quand on ne connaît pas son histoire, bon, c'est comme si on flotte, on ne sait pas. Il y a des choses qui se passent, on est incapable de comprendre des choses. Or, quand on se dit, je veux chercher à savoir qui je suis, alors les choses changent de visage. Donc moi, par rapport à cette exposition, mon objectif, c'était de chercher cette histoire-là, chercher l'histoire de mon grand-père, pour savoir qui je suis d'ailleurs, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais ici. Donc voilà, c'est un peu...
Merci beaucoup. Encore deux minutes, Eric.
Donc, de mon côté, je rappelle effectivement qu'une des cibles privilégiées, c'est tout le public scolaire, effectivement, qui a été convié lors des différentes présentations d'exposition sur la quarantaine de sites que l'on a fait en France. Et pour compléter un peu le livre et l'exposition, je rajouterai qu'il y a aussi une vidéo qui a été confectionnée, une vidéo qui porte sur les mêmes thèmes les forces noires africaines. Et ces vidéos, effectivement, sont utilisées lors des présentations de l'exposition et permettent d'ouvrir les séances pédagogiques. Projection de la vidéo qui a été faite à partir d'images et de textes récupérés, notamment auprès de la Défense nationale. Donc, présentation de la vidéo, l'exposition et, au cours de la visite de l'exposition par les élèves, une fiche pédagogique a été confectionnée qui permet aux élèves, effectivement, de lire les panneaux, de regarder et de poser des questions.
Eh bien, merci beaucoup à vous trois. Je crois qu'on a appris pas mal de choses. Et puis, je vous dis à bientôt lors d'une exposition.
Eh oui, tout à fait.
Mama, ah mama, dile tamaña. 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.